Il est décoré de nombreuses médailles. Il est tout d'abord chevalier de l'ordre de Saint-Sava de Serbie. Il a la médaille d'honneur en or de la Norvège. Il a l'ordre du couronnement de première classe, la médaille de service de la Norvège, la médaille d'honneur en or du Danemark, la médaille du mérite en or du Danemark, la médaille de Victoria en argent d'Édouard VII, la médaille d'honneur de la République française, la médaille d'honneur du Siam, la médaille d'honneur en or de la Suède, la médaille de l'ordre de l'Aigle Rouge de l'empereur Guillaume II. Et c'est un vaudois, et un Veuvezan pour être plus précis. Il a près de 68 ans, je crois, et il a derrière lui une existence peu commune. Vous allez pouvoir d'ailleurs en juger dans quelques instants, parce qu'en effet, c'est de votre vie que nous aimerions vous entendre parler, Monsieur Moser. Cette vie qui vous a fait voir de près tant de personnages illustres, dont les noms d'ailleurs s'inscrivent dans votre livre d'or. J'aimerais que vous nous disiez d'abord à quel âge vous avez quitté la Suisse, et en quelle année approximativement.
Je n'ai pas quitté la Suisse réellement, c'est à 16 ans, et j'étais en apprentissage à Lucerne.
Et vous aviez déjà choisi votre métier, c'est-à-dire celui de cuisinier, n'est-ce pas?
Oui, je voulais venir hôtelier, et je voulais commencer la carrière, n'est-ce pas, d'après les échelons. Et j'ai fait un stage de sommelier pendant une année, et j'ai continué avec la cuisine.
C'est ça. Et quel a été votre premier stage à l'étranger?
Mon premier stage à l'étranger, c'était à Cannes. Dans les Alpes-Maritimes. Et j'y suis retourné plusieurs fois ensuite.
Vous n'avez pas cessé, je pense, pendant tous ces séjours, de perfectionner dans votre art.
Dans ce temps-là, nous travaillions, les chefs de cuisine et les cuisiniers, l'été, nous étions en Suisse et l'hiver dans la Riviera.
C'est ça.
Avec le temps, ça s'est perdu, n'est-ce pas? Et puis, il fallait continuer sa carrière. J'avais la grande envie de visiter tous les pays, parce que plus on voit, plus on apprend.
Bien sûr. Alors, quels sont les pays dans lesquels vous vous êtes rendu?
Eh bien, j'étais, donc après la France, j'étais en Italie, à Rome, et puis j'étais en Tchécoslovaquie, en Autriche, en Angleterre, au Danemark, à Copenhague, et puis ensuite, naturellement, en Norvège.
Très bien. Vous faisiez allusion tout à l'heure à l'Autriche. Où est-ce que vous avez servi en Autriche?
Au Grand Hôtel de l'Europe, à Salzbourg.
C'est ça. Et vous êtes, dites-vous, parti pour l'Angleterre. Alors j'aimerais que vous nous disiez où vous vous êtes rendu en Angleterre.
Je suis parti pour l'Angleterre après avoir été à la cour d'Autriche, où je devais y aller pour 3 semaines pour donner un coup de main au chef de l'empereur, qui avait beaucoup de cuisiniers malades et il avait une quantité de réceptions à Schönbrunn et à la Hofburg à Vienne. Alors je devais y aller 3 semaines et j'y suis resté 3 mois. De là, j'étais
anxieux. Il faut croire que l'empereur appréciait votre cuisine.
Oh, bien, ce n'était pas seulement pour la mienne, mais pas, il y avait énormément de travail. Oui. Et on voulait me garder. Mais moi, j'avais des autres ambitions. Je voulais partir pour l'Angleterre, apprendre les langues. Et je suis parti pour aller spécialement à Londres. J'avais beaucoup de places dans différents hôtels, des grands hôtels où j'avais des places. Mais comme je voulais apprendre l'anglais comme il faut, je voulais tâcher de trouver une famille. Parce que dans une famille, on apprend mieux que dans... avec les collègues qui sont suisses, italiens, allemands, n'est-ce pas, dans une sorte d'anglais haché, qui n'est pas justement... on n'apprend pas si vite et si bien. Et dans cette famille, le roi Édouard venait, Édouard VII, donc, venait souvent faire visite. Cette famille voulait m'emmener aux Indes, et je n'ai pas voulu partir avec, vu que mon père était malade, et pas très bien, qu'il pouvait, je ne pouvais pas quitter l'Europe. Et quand le roi Édouard a su ça, il m'a fait savoir qu'il voulait me parler. J'étais à Buckingham Palace et là, il m'a engagé pour venir chez lui pendant quelque temps et m'a adjoint à son chef, qui était M. Ménager, un chef français, qui a fait toute sa carrière avec lui. Et là, le roi m'a dit qu'il fallait me mettre bien en règle avec tous les petites fadaises que les familles aiment, vous savez, comme il voulait les petites places qu'il aimait, ce que la reine aimait, etc. Et qu'ensuite, je devais aller avec sa fille préférée, la princesse Maud, autrement dit, princesse Charles de Danemark. Elle avait marié le prince Charles de Danemark, le fils de Frédéric VIII.
C'est ça. Vous venez de nous raconter, Monsieur Maud, comment et dans quelles circonstances vous avez fait la connaissance du roi Édouard. J'aimerais que vous nous racontiez brièvement votre première entrevue avec le roi Édouard et que vous nous fassiez un petit portrait du roi Édouard tel qu'il vous est apparu.
Oui, eh bien, je trouve que la première fois... Je l'avais déjà vu avant, donc je l'avais vu et j'avais parlé avec lui, mais jamais, n'est-ce pas, si confidentiellement, comme cette fois où il m'avait convoqué de venir à Buckingham Palace. J'avais été instruit par un membre de la famille où j'étais, qui m'avait indiqué comment il fallait répondre, comment il fallait faire, etc., et sortir, tourner le dos, mais à reculons. Inutile de vous dire, j'étais plus ou moins émotionné, vous savez, un petit Suisse qui arrive pour la première fois dans un palais comme ceci, et devant le roi d'Angleterre, j'étais un peu intimidé. Alors, inutile de dire, dès qu'il est entré, j'ai été un peu surpris, et naturellement, il m'a dit « bonjour », et j'ai dit « bonjour, monsieur ». « Pardon, pardon, je voulais dire, Sa Majesté, je dis, si vous n'avez pas l'habitude, laissez-le, n'est-ce pas, vous pouvez m'appeler ça après, ou tant que vous voulez, mais montez ici, on fera mieux s'entendre si on parle franchement. » Alors, c'est revenu en conversation souvent que j'ai de nouveau dit « monsieur ». Ensuite, il a voulu me présenter à sa femme, donc la reine d'Angleterre, et à sa fille, qui devait venir ma future patronne. Il a appelé un valet, il a dit « ces dames de venir ». Quand elles sont arrivées vers moi, naturellement, le roi l'a présenté, il a dit « voilà, ma femme ». Il a dit « ma femme, la reine d'Angleterre ». La reine m'a tendu la main, et m'a parlé en français, m'a dit « charmé de faire votre connaissance ». Ensuite, m'a présenté à sa fille. Et tout de suite, ces personnages m'ont mis à l'aise. Et depuis, nous sommes toujours restés en bon terme.
Vous avez donc été adopté presque d'emblée, vous avez fait partie du cercle de famille.
Tout de suite. Ce qui m'a beaucoup... Inutile de vous dire, quand la réception était finie, j'étais moulié de transpiration comme si j'avais eu un coup de feu. Parce que l'émotion, tout, pour me remettre, j'ai dû prendre un whisky soda en sortant.
C'est ça. Et alors, je pense que vous avez eu l'occasion d'accompagner assez souvent le roi lors de ses déplacements à l'intérieur de l'Angleterre et même à l'étranger.
Oui, par la suite, quand je suis venu dans la cour... de Danemark, ensuite quand j'ai suivi donc avec sa fille qui était princesse Charles de Danemark, alors là, nous faisions toujours des voyages et là je devais les accompagner, malgré que je n'avais pas de cuisine à faire, mais je les accompagnais, je disais toujours.
Vous avez assisté à de nombreuses réceptions officielles, je pense, vous êtes allé dans de nombreux pays de cette façon-là.
De cette façon, oui. Et en Angleterre aussi, par exemple, j'étais émerveillé de voir dans les grandes réceptions d'un château de Windsor, où on avait encore une grande, ce qu'on ne voit plus maintenant, nulle part, une grande broche, où on pouvait mettre deux bœufs à la fois.
Entier.
Et ou bien quatre veaux, six moutons, ou bien des centaines de dindes ou de poularde.
Vous allez nous mettre l'eau à la bouche.
Et encore à ce temps-là, on devait monter la broche pour qu'elle tourne, pour que ça tourne, n'est-ce pas, on n'avait pas les choses électriques à ce moment-là, et puis ça appartenait encore dans le vieux style. Le jour avant, il y avait des hommes qui étaient occupés à monter les pierres jusqu'au haut de la tour. Et puis ces pierres, en descendant, faisaient le poids, comme dans une pendule. Et il y a encore un vieux, très vieux système qui disait que ces hommes qui travaillaient à ces broches avaient droit à 6 litres de bière. Mais...
Ils les avaient bien gagnés.
Ils les avaient gagnés. Ah oui, parce qu'alors c'était pour un immense brasier comme ceci, n'est-ce pas, qui avait à peu près 4-5 mètres de long et 2-3 mètres de haut. C'était une chaleur épouvantable.
Est-ce que vous êtes allé à la chasse avec le roi Édouard?
Souvent j'allais à la chasse. J'allais toujours, quand le prince Charles venait, j'accompagnais toujours le prince Charles avec, je portais les cartouches.
C'est ça. Vous rechargiez les fusils.
Il y avait un valet qui faisait que charger les fusils. Il y a toujours deux fusils, un en action, l'autre se chargeait. Moi je donnais vite les cartouches, pour que ça aille vite. Parce que dans ces chasses-là, ils se tuaient d'un matin jusqu'à 2 000 à 3 000 faisans. Ces faisans étaient... toujours partagé, mis à part et distribué dans les différents hôpitaux d'Angleterre. Parce que quand la chasse durait 8 jours, vous pouvez vous figurer la quantité de gibier qu'il y avait. Je parle de faisans, il y avait des lapins de garenne, il y avait quelques perdrix, il y avait une quantité de gibier. Et le roi Édouard a toujours été assez généreux, il m'en donnait toujours 6. Et en plusieurs fois, 6, et à ma soeur aussi 6, et je les envoyais en Suisse. C'était toujours un régal à la maison de voir arriver les faisans de la cour d'Angleterre.
Bien sûr. Et alors je pense que vous avez, pendant ce séjour à la cour d'Angleterre, appris à connaître aussi ceux qui étaient alors enfants et qui sont devenus aujourd'hui le roi George VI d'Angleterre et le duc de Windsor.
J'ai eu l'honneur de les connaître tout jeunes, tout petits.
Vous les avez vus, je pense, dans
la cuisine. Ils venaient souvent vers leur tante, n'est-ce pas, qui était donc la princesse Charles de Danemark, qui venait faire visite, ils venaient à cheval. Il venait toujours, entre autres, le prince de, qui est devenu le prince de Galles, plus Édouard VII, donc le duc de Windsor actuellement, et sa sœur. Ils ont joué des farces souvent à leur groom qui devait les suivre. Il envoyait le groom chercher du sucre à la cuisine, et pendant ce temps, on prenait le cheval du groom tout et départ. Et lui, il devait rentrer à pied et eux faisaient des belles promenades tout seuls.
C'était en quelle année à peu près que ça se passait?
C'était en 1902, 1903.
Donc très peu de temps après la mort de la reine Victoria?
Oui, tout de suite après le règne de commencement du règne d'Édouard VII.
C'est ça, exactement. Et alors, est-ce que vous auriez peut-être encore quelques anecdotes à nous confier sur Édouard VII? Est-ce que vous vous souvenez peut-être d'un mot, d'un trait d'esprit?
Une, par exemple, là, vous savez, dans ses chasses, chaque fois qu'une visite royale venait en Angleterre, nous avions toujours des grandes chasses qui étaient organisées. Nous avons eu, entre autres, il y avait le roi Carlo du Portugal, Carlo Ier, il y avait le roi d'Espagne, il y a eu l'empereur d'Allemagne, et enfin quantité de personnalités officielles qui venaient, qui étaient invitées à ces chasses. Le roi Édouard, comme vous savez peut-être, était un très grand fumeur, comme Churchill.
Et le cigare, toujours.
Le cigare du matin au soir. Et même après son opération d'appendicite, il a voulu un cigare, deux jours après. Et les docteurs étaient naturellement contre qu'il devait fumer. Il a fait venir son valet, Mindiger, et lui a dit, Mindiger, porte-moi un cigare. Et le Mindiger l'a répondu, je ne peux pas, le majesté s'est défendu. Il a dit, je suis le roi d'Angleterre, je commande, je veux un cigare. Et il avait un grand cigare, il s'était assis dans son lit, et quand les docteurs sont venus, il était là à fumer comme une cheminée d'usine. Inutile de dire, les docteurs ont dit, ça vous est vaincu, et ça ne l'a pas fait de mal.
Non.
Ces cigares étaient faits spécialement pour lui, excessivement forts. Et les personnes peu habituées qui fumaient ces cigares, en général, se trouvaient mal ensuite. Mais le roi avait une petite malice quand on était en chasse, c'était d'offrir un de ces cigares quand c'était des personnages qui n'avaient pas assisté encore à ces chasses et ne connaissaient pas un peu ces malheureux cigares. Alors, une fois le cigare allumé, naturellement, il remarquait tout de suite qu'ils étaient forts et qu'ils ne pourraient pas arriver au bout, mais le roi le surveillait toujours de l'œil. C'est pas, ils sont bons, mes cigares. C'est pas, ils sont bons. Ils sont faits spécialement pour moi, vous savez, c'est des feuilles entières, etc. Il a fait une théorie sur le cigare. Et le pauvre monsieur était obligé de continuer à fumer, jusqu'à ce que le cigare soit fini.
Il ne devait pas prendre beaucoup de plaisir à la chasse.
Ah, il ne devait pas prendre beaucoup de plaisir. C'était entre deux, quand il y avait en attendant le lunch, par exemple, ou après le lunch, avant la reprise des chasses, parce que la chasse se faisait le matin. Et on servait en plein air dans les grandes tentes, on servait le lunch, et puis les chasses reprenaient l'après-midi, avec le concours des dames, alors venait l'après-midi.